Merci à Damien et à David d'avoir prié pour nous. Merci à ceux qui ont animé des moments de louange. Le suspense est à son comble. Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Job est un homme innocent qui souffre alors qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Vous vous rappelez ? Il cherche le sens de ses souffrances. Il pose des questions à Dieu. Il cherche Dieu. Regardez le chapitre 23. Une parole révélatrice de l'état d'esprit dans lequel se trouve Job. Job chapitre 23 verset 1 à 5. Job prit la parole et dit « Aujourd'hui encore ma plainte est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. » Et regardez le verset 3. « Si seulement je savais où le trouver. » Si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. Vous voyez le désir ardent que Job éprouve, que Dieu lui parle, que Dieu lui donne une réponse, son désir ardent de trouver Dieu, de le chercher, d'être en relation avec lui. Mais comme on l'a vu hier, Job n'a pour l'instant pas de réponse. C'est Éliou qui lui a répondu et qui lui a notamment dit « Dieu nous discipline par la souffrance ». Ok. Avant ça, les amis de Job lui avaient répondu pensant expliquer ses souffrances grâce au principe de rétribution. Si tu souffres, Job, c'est parce que tu as péché. C'est aussi simple que ça. Et finalement, après 37 chapitres de suspense, après beaucoup de patience, dans la vie comme dans la souffrance, il en faut parfois de la patience, non ? Vous ne pensez pas ? Eh bien, Dieu va finalement répondre à Job. Il va lui dire ceci. Écoute, Job, voilà ce qui s'est passé. Un jour, Satan est venu me voir. Je savais que tu étais un homme intègre et droit. Je le savais. Je savais que tu étais un homme de confiance. Je savais que tu n'allais pas me maudire. Tu comprends, Job ? C'est pour ça que je lui ai permis de te toucher. J'espère que vous êtes avec moi. Dieu ne dit pas du tout ça à Job. Pas du tout. Il aurait très bien pu lui dire, écoute, Job, voilà ce qui s'est passé. Un jour, j'étais tranquillement dans la salle de mon conseil, et puis un jour, il est venu me voir. Satan. Je savais que tu étais un homme intègre et droit, un homme dit de confiance. C'est pour ça que je lui ai permis de te faire souffrir. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que Dieu dit, Job, ce que Dieu dit à Job dans sa réponse. Alors, qu'est-ce que Dieu va répondre à Job, finalement ? Eh bien, dans, non sans une certaine ironie, la réponse de Dieu à Job, incroyable. Et si vous avez lu le chapitre, les derniers chapitres, c'est peut-être la réflexion que vous vous êtes faite. La réponse de Dieu à Job, ce sont des questions. Depuis le chapitre 3, Job a posé à peu près une soixantaine de questions à Dieu. Peut-être 64 exactement. D'accord ? Est-ce que vous savez ce que Dieu fait dans les chapitres 38 à 40 ? Exactement la même chose. Dans les chapitres 38 à 40, Dieu va répondre à Job en lui posant une soixantaine de questions à son tour. Job a posé des questions à Dieu. Dans sa réponse, Dieu pose des questions à Job. Des questions rhétoriques sur la mer, l'aurore, la lumière, la neige, la grêle, la pluie, la rosée, les Pléiades, Orion, les constellations du zodiaque, la grande ours, les bouquetins, le buffle, les autruches, le cheval, l'épervier, l'hippopotame, le crocodile. Quel rapport ! Mais quel rapport entre le problème de la souffrance, et notamment le problème de la souffrance injuste auquel Job est confronté, quel rapport, je vous le demande, entre ce que Dieu dit dans sa réponse et le livre de Job, et les questions que Job se pose. Mais quel rapport ! Je pense, finalement, que ce que dit Dieu dans ces chapitres, en substance, est tout simplement ceci. Dieu est Dieu. La réponse de Dieu au problème de la souffrance injuste, la réponse de Dieu à Job, c'est lui-même. Dieu est Dieu. Et c'est ce que j'aimerais que nous découvrions ensemble ce matin. Dieu et Dieu. Premièrement, c'est le plan de ce message est à la dernière page de vos livrets, page 22 et 23. Premièrement, une première question qui résume peut-être toutes les questions du chapitre 38, verset 1 au verset 40, verset 5, qui gère une création mystérieuse ? Point d'interrogation, d'accord ? Qui gère une création mystérieuse ? C'est la première réponse, ou plutôt, si vous m'avez bien suivi, la première question de Dieu dans laquelle il est très ironique. Très ironique. Regardez avec moi le chapitre 38, les versets 4 à 5. Juste les versets 4 à 5 dans un premier temps, et ensuite les versets 19 à 21. Job 38, versets 4 à 5. « Où étais-tu, Job, quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Oui, ou qui a plié le ruban à mesurer sur elle ? » Et puis les versets 19 à 21, juste un peu plus loin. « Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière ? Et les ténèbres, où ont-elles leur domicile ? Pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles. Tu le sais, puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours était si grand. » Vous avez vu combien le Seigneur, dans sa souveraineté, parce qu'il fait ce qu'il veut, s'il est Dieu, fait preuve d'une certaine ironie. Dieu est très ironique. Mais dans ces versets, Dieu est aussi très pédagogique. Il va inviter Job, à mon sens, à reconnaître qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. En lui faisant faire le tour du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le tour du monde, mais Dieu va faire à Job le tour du monde, non pas en 80 jours, beaucoup trop long, mais en deux chapitres. En deux chapitres. En attirant son attention sur une sélection de phénomènes naturels qu'il gère parfaitement et dont il est le seul à pouvoir connaître les mystères. Regardez les versets 4 à 7 du chapitre 38. « Où étais-tu donc quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle ? Sur quoi ces bases reposent-elles ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là ? Je crois qu'il est en train d'attirer Job sur le mystère de l'origine de la création, sur l'origine du monde dans lequel vous vivez. Dans lequel nous vivons. Mystère de l'origine de la mer, magnifiquement comparé à un accouchement. J'attire votre attention aussi sur la splendeur poétique de ces versets. Les versets 8 à 11, regardez. Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel ? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes ? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes ? Quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » C'est beau, non ? C'est vachement beau, c'est vachement poétique. Mystère de l'apparition quotidienne du matin ou de l'aurore. Regardez le verset 12 à 15. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants tombent ? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et leurs bras prêts à agir et brisés. Mystère des royaumes souterrains inaccessibles. Regardez les versets 16 à 18, dans la continuité. As-tu pénétré, Job, jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre ? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu perçu toute la largeur de la terre ? Déclare-le, si tu sais tout cela. Mystère de la lumière et des ténèbres, dont la source est inconnue des hommes. Les versets 19 à 21. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière et les ténèbres ? Où ont-elles leur domicile pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles ? Tu le sais puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours était si grand. Mystère de la neige, mystère de la grêle, du chemin de la lumière, des averses, des éclairs, vous vous rappelez, 20 kilomètres, 40 000 kilomètres par seconde, incroyable. Mystère du tonnerre, de la pluie qui tombe sur une terre inhabitée, de la pluie, de la glace, des Pléiades, d'Orion, des constellations du zodiaque, de la grande ours, de ses petits, des règles du ciel. Qui est à l'origine ? Qui est à l'origine de toute la création ? Qui la connaît comme sa poche ? Qui sait la gérer à merveille ? En d'autres termes, qui est Dieu finalement ? Qui est Dieu ? Vous voyez comme dans ces versets, Dieu est vraiment très très pédagogique, c'est un bon prof. Un très bon prof. Job est à son école et la salle de classe n'est autre que son monde, que sa création. Et à partir du verset 39, c'est un peu comme dans 30 millions d'amis. Vous connaissez 30 millions d'amis, cette émission qui raconte l'histoire du lapin de... certaines personnes, du chat qui s'est perdu en forêt, du cheval qui a un problème. Ou un peu comme dans Histoire naturelle. Alors, si vous êtes insomniaque, vous connaissez Histoire naturelle, l'histoire du cerf et de la biche qui se retrouvent au matin pour faire des petits. Et etc. Le tour du monde continue à partir du verset 39. Mais cette fois, Dieu attire l'attention de Job sur une sélection d'animaux dont l'existence constitue un mystère pour les hommes et ne dépend absolument en aucun cas de leur influence. Regardez le chapitre 38, les versets 39 à 41. « Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu la petite des lionceaux ? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère, qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent, affamés ?» Autrement dit, qui chasse la proie de la lionne et du corbeau ? Qui a fait ça ce matin, avant de se lever ? Qui a fait ça pour satisfaire l'appétit de ces animaux ? Pas moi en tout cas, j'étais en train de dormir. Voyez, c'est Dieu qui les nourrit. Regardez les quatre premiers versets du chapitre 39. « Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas ? Elles se courbent, libèrent leurs petits, sont délivrées de la douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air. Plus ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. » Autrement dit, ce matin, un bouquetin est né au-dessus de Champfleury. Un tout petit bouquetin. Qui est au courant ? Qui est au courant ? Seul Dieu supervise la naissance et la croissance de ces animaux qui vivent loin des hommes. Je ne pense pas que ces versets soient là pour nous dire que Dieu prend soin de sa création. C'est vrai dans l'absolu, il le fait, ces versets le disent. Mais je pense que l'argument principal de ces versets est de dire qu'il existe une création animale qui existe de manière complètement indépendante de toute influence humaine. Regardez les versets 13 à 18 de ce même chapitre 39, versets 13 à 18. L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Expliquez-moi ceci. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il pris la peine de créer un animal aussi stupide, ridicule et inutile qu'une autruche ? Non mais sans blague, personnellement, je pourrais très bien me passer d'autruche dans la vie, même si on en fait des steaks succulents. Mais pourquoi Dieu a-t-il pris la peine de créer un animal mais aussi inutile pour les hommes ? Absolument inutile. Réponse ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il fait ce qu'il veut, parce qu'il a créé certains animaux, non pas pour servir la cause des hommes, mais pour servir sa propre cause. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il a créé tout ça pour son bon plaisir. Vous voyez comment dans ces versets, Dieu invite vraiment Job à reconnaître qu'il est Dieu en attirant son attention d'une part sur une création mystérieuse, dont il est le seul à connaître tous les mystères, dont il est qu'il est le seul à savoir gérer parfaitement, qui ne dépend en aucun cas de notre influence, qui vit très bien sans nous. Et après avoir assisté à un tel spectacle, Job semble vraiment avoir compris le message. Regardez les cinq premiers versets du chapitre 40, les derniers versets de cette première partie. Job, chapitre 40, versets 1 à 5. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant ? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer ?» Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus. Et même deux, mais je n'ajouterai rien. » Autrement dit, qui est Job ? Pour faire des reproches à Dieu comme il l'a fait. Un peu au chapitre 19 et surtout au chapitre 27, des versets 2 à 6, si vous voulez prendre la référence. Qui est Job pour lui faire un procès au Tout-Puissant, un procès à celui qui gère une création mystérieuse ? Qui est-il pour le corriger ? Est-il capable de faire tout ce que Dieu fait ? Est-il capable de comprendre, de gérer tous les mystères de l'univers, de la création ? Autrement dit, Job est-il capable d'être Dieu ? S'il est capable de faire tout ça, s'il est capable d'être Dieu, ses reproches sont parfaitement justifiés. Mais s'il n'en est pas capable, s'il n'est pas bien placé, ses reproches sont injustifiés, absolument. Job, vous voyez, semble donc vraiment avoir compris le message. Il s'écrase. Il fait profil bas. Il reconnaît sa petitesse, mais il ne réagit pas encore comme il le fera plus tard. Et comme nous allons le voir, Dieu va donc continuer à lui parler. Et c'est l'objet de notre deuxième et de notre dernière partie. Qui gère une création mystérieuse ? Dans un deuxième temps, qui maîtrise les créatures monstrueuses ? C'est la deuxième réponse, ou plutôt la deuxième question de Dieu à Job, dans laquelle il est toujours aussi ironique. Regardez les versets 6 à 14 du chapitre 40. Job, chapitre 40, versets 6 à 14. L'Éternel répondit encore à Job au milieu de la tempête et dit « Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voudras-tu vraiment casser mon jugement ? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison ? As-tu un bras pareil à celui de Dieu ? Une voix tonnante comme la sienne ? Vous voyez, hein, est-ce que tu es Dieu quelque part ? Pars-toi donc de fierté et de prestige, habille-toi de majesté et de splendeur, déverse le trop-plein de ta colère et d'un regard abaisse qui sont les fiers. » D'un regard humilie tous les fiers, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme-les dans un endroit caché. Alors moi-même, je te rendrai hommage, parce que le salut sera venu de toi-même. En lisant ces versets, vous pensez peut-être à un film que j'ai vu l'année dernière pour la première fois, un film qui a contribué à faire remonter dans mon estime un acteur que j'avais beaucoup de mal à apprécier, Jim Carrey. Bruce Tout-Puissant, un film avec Jim Carrey, c'est l'histoire de Bruce Nolan. Je vous rappelle l'histoire, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous raconte cette histoire, l'histoire de Bruce Nolan, un journaliste pour une chaîne de télé locale aux États-Unis qui a vraiment tout pour être heureux. Ses reportages sont drôles et originaux, il vit avec une fille qu'il aime, il aime cette fille, et elle aime, mais tout bascule. Tout bascule le jour où il apprend une nouvelle catastrophique. Il n'a pas décroché le job de ses rêves, être le David Pujadas, le Harry Roselmack, le présentateur télé vedette de sa chaîne de télévision. Alors il commence à remettre en question un petit peu l'existence de Dieu, et il commence à remettre en question la façon dont il gère le monde. C'est pas juste, c'est pas normal. Dieu lui lance alors un défi. Et ce défi consiste tout simplement à avoir tous les pouvoirs, d'où le titre « Bruce Tout-Puissant ». Ce défi consiste à donner à Job l'occasion de gérer le monde, d'être Dieu, d'avoir tous les pouvoirs pour le faire. Et si vous avez vu le film, vous savez que le résultat est, comment dire, très légèrement catastrophique. Alors, ne me prenez pas, je ne suis pas du tout en train de comparer Job à Jim Carrey, pas du tout. Mais c'est un peu le même défi que Dieu lance à Job dans ses versets. Est-il bien placé pour casser le jugement de Dieu, pour remettre en question sa justice comme il l'a fait, verset 8 ? Est-il capable d'exercer la justice sur la terre, d'abaisser, d'humilier les fiers, verset 11 du chapitre 40, d'écraser les méchants ? En d'autres termes, Job est-il capable d'être Dieu, exactement ? Job est-il capable d'être Dieu ? La réponse à cette question est non, c'est une question rhétorique. Pourquoi ? Parce que seul Dieu est assez puissant, assez fort pour maîtriser les créatures les plus fières, dont le Behemoth et le Léviathan sont les plus monstrueuses. Le Behemoth et le Léviathan, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ces deux bêtes-là. Le Behemoth, en hébreu, c'est tout simplement un nom au pluriel. Hot, c'est la marque du pluriel. En hébreu, ça veut dire les bêtes. Les bêtes. Et généralement, il s'agit du plus féroce des animaux terrestres associés à l'hippopotame. Vous voyez un petit peu la carrure d'un hippopotame, d'accord ? Si je me retrouve face à un hippopotame, je ne sais pas ce que je fais, mais je pense que je m'en vais. Et le Léviathan, que pensez-vous du Léviathan ? Si le Behemoth est le plus féroce des animaux de terre, le Léviathan est le plus terrifiant des animaux de mer, qui a souvent été associé, et c'est d'ailleurs ce que disent d'autres passages dans la Bible, dans Ésaïe, dans les psaumes notamment, au crocodile, au croco. Un peu comme dans Crocodile Dundee, vous vous rappelez ? Même si certains détails font vraiment penser à un dragon. Un peu comme dans la Belle au Bois Dormant, vous savez, il y a une méchante sorcière, la fée maléfique, qui se transforme en dragon, qui crache du feu. C'est un peu ce à quoi ces choses nous font penser. Regardez Job chapitre 40, à partir du verset 15. « Voici l'animal par excellence que j'ai créé tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Il s'agit du Behemoth. » Voilà sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes de bronze, ses membres sont pareils des bras de fer, il est le chef-d'œuvre de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Et puis à partir du verset 25, en ce qui concerne le Léviathan, prendras-tu le Léviathan à l'hameçon? Lui attacheras-tu la gueule avec une corde? Mettras-tu une baguette dans ses narines? Lui transperceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de nombreuses supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Conclura-t-il une alliance avec toi? Pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes filles? Des pêcheurs en feront-ils le commerce? Le partagera-t-on entre méchants? Clibreras-tu sa peau de flèche et sa tête de harpon? Pose sa main sur lui. Tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de poser votre main sur la peau d'un crocodile. Ça donne pas envie de l'embêter, hein. Regardez le début du verset du chapitre 41. Tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui pourrait donc me résister en face? Qui m'a donné le premier pour que je parle en retour? Tout ce qui sur le ciel m'appartient. Et puis à partir du verset 22, pour finir cette description, sous son ventre se trouvent des pointes aiguës, on dirait une herse qu'il traîne sur de la vase. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une marmite. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche sur lui, sur la terre. Personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Il défie tout ce qui est grand. Il est le roi des plus fiers animaux. Autrement dit, il faut être fou pour dépenser plus. Non, plus sérieusement, il faut être complètement taré. Il faut être complètement siphonné. Si vous venez de Marseille, il faut être complètement fada pour se croire capable de maîtriser une créature aussi monstrueuse, aussi terrifiante que le Léviathan. Seul Dieu en est capable. C'est un peu comme si Frodon, Aragorn, Gimli et Legolas, vous voyez où je veux en venir, s'étaient cru capables de maîtriser le Balrog. Vous vous rappelez de cette scène mémorable dans Le Seigneur des Anneaux? Nous sommes dans le premier épisode de cette superbe trilogie, la communauté de l'anneau est formée. Frodon et ses amis font route vers Mordor pour détruire cet anneau maléfique que seul Frodon peut faire. Et là, ils passent par un endroit très très dangereux, vous vous rappelez? Les mines de la Moria. D'accord? Les mines de Moria où Gimli a ses amis. Et là, ils se retrouvent nez à nez avec un Balrog. Vous vous rappelez? Ils entendent ses pas au loin. Une créature antique démoniaque que seul Gandalf sera finalement capable de vaincre. Vous vous rappelez de cette scène? Alors je suis vraiment conscient que cette illustration a ses limites, mais elle a peut-être le mérite de nous aider à comprendre que seul Dieu finalement, que seul Dieu est assez fort, assez puissant pour maîtriser les éléments monstrueux, terrifiants, les réalités chaotiques, incompréhensibles de sa création, et qu'il invite Job à lui faire confiance pour maîtriser ce qu'il ne peut pas maîtriser, pour comprendre ce qu'il ne peut pas comprendre. Vous comprenez? Notamment la souffrance injuste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est Dieu. Tout simplement parce qu'il est le seul à pouvoir maîtriser les éléments chaotiques, monstrueux, terrifiants, à la limite de l'incompréhensibilité de sa création. J'aimerais vous lire un article de la Confession de foi de La Rochelle. Cette confession de foi est très importante dans l'histoire de l'Église, pour la bonne et simple raison que c'est la première confession de foi protestante qui a été rédigée en 1559. Écoutez bien cet article consacré à la providence de Dieu. J'ai failli pleurer quand j'ai lu cet article. Écoutez bien, et si vous êtes d'accord avec cet article, sentez-vous libre de confesser ces mots dans votre cœur, ok? La providence de Dieu. Nous croyons non seulement que Dieu a créé toutes choses, mais qu'il les gouverne et les conduit, disposant de tout ce qui arrive dans le monde et réglant tout selon sa volonté. Certes, nous ne croyons pas que Dieu soit l'auteur du mal, ou que la culpabilité puisse lui être imputée, puisqu'au contraire, sa volonté est la règle souveraine et infaillible de toute droiture et de toute justice vraie. Mais Dieu dispose de moyens admirables pour se servir des démons et des impies, de telle sorte qu'il sait convertir en bien le mal qu'ils font et dont ils sont coupables. Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser de questions qui nous dépassent. Ça vous rappelle quelque chose ? Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité. Car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, le Léviathan, le Behemoth, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient au bris les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau ? Est-ce que vous vous êtes déjà laissé réconforter par la providence de Dieu ? Est-ce que vous vous êtes déjà laissé réconforter par la souveraineté de Dieu ? Quel réconfort ! Quel réconfort que Dieu est souverain, qu'il maîtrise absolument toute chose, que rien n'échappe à son contrôle, que rien ne lui surprend. Êtes-vous prêt à lui faire confiance, pour maîtriser ce que vous ne maîtrisez pas, pour comprendre ce que vous ne comprenez pas? Un examen raté, une année redoublée, un avenir incertain, une déception, une maladie imprévue. Êtes-vous prêt à abandonner entre ses mains ou à ses pieds, comme vous voulez? Peu importe. Les questions qui vous dépassent. Est-ce que je suis prêt à en faire de même? Les questions sans réponse, les pourquoi de notre existence qui peuvent parfois nous pourrir la vie. Les questions sans réponse, les pourquoi qui peuvent nous empêcher d'aimer Dieu pour ce qu'il est. Êtes-vous prêt tout simplement à laisser Dieu être Dieu dans vos vies? Est-ce que vous êtes prêt à faire ça en partant de ce camp? Est-ce que je suis prêt à le faire? À laisser Dieu être Dieu dans les domaines de nos vies que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas. C'est en tout cas ce que Job fait. Regardez sa dernière réponse, au chapitre 42, les 6 premiers versets. Job répondit à l'Éternel, chapitre 42, versets 1 à 6. « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Quel est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Deux choses dans ces versets. Premièrement, mon œil t'a vu. Job a vu Dieu. Comment comprendre ? C'est hyper zarbi, ça. Job a vu Dieu. C'est vraiment pas facile à comprendre. Si un jour vous avez un mémoire de maîtrise à faire en théologie, je vous conseille de les faire sur ces versets. C'est vraiment pas facile. Je crois que Job a toujours connu Dieu, on l'a dit, dans le cadre d'une relation authentique et personnelle avec lui. Vous vous rappelez, il est honnête, franc, il dit tout haut ce qu'il pense, tout bas. Mais cette connaissance, et là je tiens vraiment à faire preuve de prudence, cette connaissance était peut-être limitée dans le sens où elle n'avait peut-être jamais été éprouvée par la souffrance. Ainsi, après avoir été éprouvé, après avoir entendu Dieu le parler, ce qu'il a toujours désiré, vous vous rappelez, hein, chapitre 23, verset 3, « Si seulement Dieu pouvait me parler !» Après avoir reconnu que Dieu est personnellement impliqué dans la gestion d'une création dont il prend soin et qu'il maîtrise parfaitement ce que nous venons de dire, après tout ça, Job fait peut-être l'expérience, comment dire, d'un nouveau genre de connaissance. Il n'a pas simplement entendu parler de lui, comme il le dit, il a vu. Il a vu avec les yeux d'une foi éprouvée par la souffrance et réconfortée par sa parole. Dieu a parlé à Job par sa présence, par sa souveraineté absolue en toutes circonstances, même au milieu de la souffrance. Même au milieu de la souffrance, Job, Dieu est avec Job. Job a vu Dieu. La deuxième chose que Job dit au verset 6, « Je me condamne et reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » De quoi Job se repentit-il exactement? Je pense qu'il ne faut pas faire d'erreur là. De quoi Job se repent-il ? Job ne se repent d'aucun péché, sinon le livre de Job tombe à l'eau et les amis de Job ont raison, alors qu'ils ont tort. Vous vous rappelez ? Ce que Dieu dit, vous n'avez pas parlé de moi correctement. De quoi Job se repent-il ? C'est très intéressant. On pourrait passer des heures à en parler, on prend juste une minute. Il y a deux possibilités, je vous soumets ces deux possibilités. Job se repent dans un premier temps peut-être, mais certainement en fait, de choses qui le dépassent. C'est ce qu'il dit. Verset 2 du chapitre 38, verset 3 du chapitre 42. D'avoir voulu tout comprendre à tout prix. D'avoir voulu connaître les raisons de ses souffrances. Des raisons que seul Dieu connaît et qu'il ne lui a finalement pas révélées. Job se repent peut-être, vous voyez, d'avoir voulu tout comprendre, d'avoir posé des questions qui le dépassent, alors qu'il n'était pas en mesure d'y répondre, et que Dieu seul connaît et qu'il ne lui révélera pas de toute façon parce qu'il est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Vous comprenez ce que je veux dire ? Première possibilité. La deuxième possibilité, que je trouve personnellement très originale, Job se repentirait de son deuil dans ces versets. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Dans ce verset, après avoir assister au spectacle de la toute-puissance de Dieu. Job tombe littéralement en admiration devant Dieu. Et abandonne, renonce, se détourne de quoi ? De son deuil, de ses lamentations dans la poussière et la cendre. Je reconnais mes torts sur la poussière et la cendre. Pourquoi on parle de poussière et de cendre ? De quoi la poussière et la cendre sont les symboles dans la Bible ? Du deuil. Job serait peut-être en train d'abandonner, de renoncer, de se détourner de son deuil, de ses lamentations du chapitre 3 et de la suite du livre, dont la poussière et la cendre sont des symboles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Et selon cette interprétation, c'est un homme libéré qui parle. Ce n'est pas du tout un homme écrasé par Dieu, humilié, mais c'est un homme libéré, complètement libéré. Libéré non pas de ses souffrances, Job n'est pas encore libéré de ses souffrances à ce stade. Pas encore, il souffre toujours. Le rétablissement n'a pas encore eu lieu. Job n'a pas encore établi dans sa santé. Job n'est pas encore libéré de ses souffrances, mais il est libéré de son deuil, de ses lamentations que Dieu a métamorphosées en adoration. Job est libéré de ses lamentations que Dieu a transformées par sa parole, par sa présence, par sa souveraineté, par sa puissance en adoration. Tout simplement parce qu'il est Dieu. J'aime beaucoup cette interprétation. Il nous reste peut-être quelques minutes. J'aimerais conclure de manière générale sur le livre de Job à la lumière de l'épilogue que vous avez peut-être lu. Je vous propose simplement de lire les six derniers versets de ce livre, ce qui conclura notre temps ensemble sur le livre de Job. À partir du verset 10 du chapitre 42. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié par ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. La Kessita en fait. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première Jemima, la deuxième Ketsia, la troisième Keren Apuk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération, puis il mourut, âgé et rassasié de jours. Job est rétabli moralement. Dans un premier temps, Dieu a donné raison à ses amis. Dieu a donné raison à Job devant ses amis, pardon. Maintenant, il le rétablit socialement. Et ce, par pure grâce. Et vous voyez ce rétablissement final dont Job bénéficie. Et le signe que la souffrance, qu'elle soit injuste ou pas, n'aura pas le dernier mot dans votre vie, si vous avez placé votre confiance en Jésus. Dans la Bible, c'est vrai, et dans le livre de Job, Dieu ne nous a peut-être pas donné de réponse théorique au problème du mal. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Il faut reconnaître que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, ne nous a peut-être pas donné de réponse théorique au problème du mal. C'est vrai. Mais vous savez quoi ? Il a fait quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus précieux. Il ne nous a peut-être pas donné de réponse, mais il s'est donné lui-même. Lui-même, dans la personne de son fils, pour vaincre le mal et pour nous en délivrer. La réponse de Dieu à la souffrance, la réponse de la Bible à la souffrance, c'est finalement Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même par amour pour nous et tout en étant parfaitement juste. Dieu a permis que son Fils, le Seigneur Jésus, un homme intègre et droit, un homme innocent, souffre, soit crucifié à la place des coupables que nous sommes, des injustes, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions être avec lui dans une création où la mort ne sera plus, où la souffrance ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et c'est vraiment en ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, qui donne sa réponse au problème de la souffrance à la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. C'est en ce Dieu-là qui mettrait un jour un terme final et définitif à toute souffrance que je vous invite à placer votre confiance, à trouver le réconfort dont vous avez besoin. Prions pour terminer. Notre Dieu, notre Père, merci tout simplement pour ce que tu es. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour le réconfort de ta toute-puissance, de ta souveraineté en toutes circonstances, de ta présence même au milieu de la souffrance. Tu es avec nous, Seigneur, même dans la souffrance. Aide-nous, nous t'en supplions, à te laisser être Dieu dans nos vies, tout simplement parce que c'est ce que tu es, et à t'aimer pour ce que tu es. Aide-nous à te faire confiance pour gérer ce que nous ne pouvons pas gérer, pour maîtriser ce que nous ne pouvons pas maîtriser, pour comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre. Tu ne nous as peut-être pas donné de réponse théorique au problème de la souffrance, c'est vrai, mais Seigneur, tu as fait quelque chose de tellement grand, de tellement précieux. Tu t'es donné toi-même dans la personne de ton Fils. Tu t'es donné toi-même pour non seulement vaincre la souffrance, mais pour nous en délivrer de manière finale, définitive, pour y mettre un terme lorsque tu reviendras. C'est notre espérance. Aide-nous à nous réjouir profondément en toi et en l'espérance que tu nous donnes dans la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus. Et c'est en son nom que nous prions et pour sa gloire. Amen. Je pense qu'on n'a plus de temps. Ok, je vous remercie.